ఒకటి పుక్కుల తే నిజపకింది. Ils sont plusieurs à quitter le pays pour aller travailler à l'étranger. Professeurs d'université et médecins qualifiés ont choisi d'émigrer aux grandes dames des universités et instituts médicaux. Ce phénomène, c'est la fuite ou l'exode des cerveaux. Vous voulez réagir? N'hésitez pas à appeler au 081 890 63 94. Pour l'instant, nous faisons le tour de la question avec Jody Kachama qui est avec moi dans ce studio. Bonjour Jody.
Bonjour Nicole.
Alors, pourquoi les professeurs d'université et médecins décident d'aller vivre ailleurs alors que le pays a besoin de leur savoir, je dis.
Nicole, c'est une situation tout de même regrettable. Cependant, nous devons savoir que les professeurs d'université et les médecins particulièrement émigrent pour plusieurs raisons. D'après nos sources, la première raison, c'est la crise économique dans le pays qui touche presque tous les secteurs de la vie nationale. Donc c'est un problème de survie. Et puis, deuxième raison, c'est, vous voyez, certains sont partis en exil pour être à l'abri des poursuites du système politique passé. Donc à l'époque du feu président Mobutu. Mm-hmm. Et une troisième raison, c'est que des chercheurs sont partis parce qu'ils ont eu le sentiment d'être inutiles, marginalisés dans la société. Leurs recherches n'étaient pas valorisées, étaient inexploitées. Alors ils se sont décidés d'aller ailleurs où leurs travaux seront valorisés et exploités. Voilà un peu les trois raisons qui ont motivé leur départ du pays.
Ça, vous avez découvert ça après l'enquête, ou bien pendant l'enquête que vous avez eu à effectuer.
Hein. Oui, c'est pendant l'enquête que nos sources nous ont livré toutes ces informations. Mmh.
Mais je dis, que pensent les chefs d'établissement d'enseignement public face à ce phénomène?
Bien, les chefs d'établissement ne peuvent que le déplorer. C'est le cas du professeur Bernard Lututala, recteur de l'université de Kinshasa. On peut l'écouter.
Et depuis un certain temps, oui, il y a eu beaucoup de professeurs qui ont quitté l'université pour aller ailleurs. Je vous dirais par exemple que ici, à la faculté de sciences polytechniques, hein, on a connu une vague de professeurs une vague de départ de professeurs vers notamment le Rwanda dans les années début 90. Le Rwanda avait un problème avec ces facultés qui ont trait aux sciences exactes, et le PNUD ainsi que le Rwanda avaient mis en place un système pour faire venir les professeurs d'ici. Il s'est fait que quand les profs sont partis là-bas, ils ont constaté qu'ils vivaient nettement mieux qu'ici et ils sont restés. Et c'est ce départ-là, plus ou moins massif des professeurs de la faculté polytechnique, ajouté à cela le départ des professeurs belges, ou en tout cas étrangers, qui a fait que maintenant, à la faculté polytechnique, on a de très sérieux problèmes pour arriver à avoir le nombre exact des professeurs qu'il faut pour faire fonctionner la faculté de médecine, de polytechnique. Vous vous rappellerez, à Lubumbashi, on a eu de cas comme le départ du professeur Moudimbe, bien connu, qui maintenant enseigne aux États-Unis. Il y a eu effectivement beaucoup de profs qui sont partis et qui ne sont plus revenus ici.
Beaucoup de professeurs qui quittent le pays, beaucoup d'intellectuels qui quittent le pays pour, semble-t-il, de meilleures conditions de vie ailleurs, à l'étranger. Peut-être que vous nous suivez en ce moment là où vous êtes. Hein. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Appelez au 081 890 63 94. Jody Kachama, on a suivi tout à l'heure les explications du recteur de l'université de Kinshasa.
Oui.
Mais est-ce que vous avez pu joindre, je dirais, un professeur qui a quitté le pays?
Nous avons essayé de joindre au téléphone le professeur Kasongo Makita. Il y a de cela 30 ans qu'il a quitté le pays et c'est là pour deux raisons. D'abord, c'est pour des raisons politiques, pour échapper aux poursuites du gouvernement passé. Et assistant à l'UNASA, à l'Université nationale du Zaïre à l'époque, il était parti en Suisse pour défendre son doctorat. Alors après la défense de sa thèse, il s'est incrusté dans la société suisse telle qu'il nous l'a dit lui-même.
Oui.
Aujourd'hui, il est professeur chargé des cours en sciences politiques à l'Université de Lausanne, en Suisse. On peut l'écouter.
Ce phénomène, il répond bien évidemment à la situation du pays, l'état général du pays. Conditions de travail, il n'y a pas que les conditions matérielles, hein, les conditions salariales des enseignants, bien sûr, qui sont déplorables, mais c'est tout le climat général du travail et du travail scientifique qui n'est plus possible dans ces conditions-là. ayant appartenu à une génération quand même qui est celle de l'université Lobagnon des années 63 à 67. Nous avions des aspirations, nous étions disponibles pour l'État et pour la construction de l'État et le développement du pays. Ces conditions n'ayant plus été unies, réunies dans le pays, nous les avons cherchées là où nous pouvions les trouver, donc à l'étranger. Il m'arrive d'offrir mes services, notamment comme enseignant visiteur, comme conférencier, etc. Oui.
Donc là, ce sont les explications que nous a donné le professeur que vous avez pu joindre.
Kassongo Makita. Oui.
Voilà, à partir de Lausanne en
Suisse. De Lausanne en Suisse, bien sûr.
Qui finalement a pu trouver les meilleures conditions, parce qu'il dit qu'il était à la recherche des certaines conditions qu'il ne pouvait trouver ici dans le pays.
Tout à fait. Maintenant, il évolue bien, donc il est bien.
Il s'épanouit bien là-bas à Lausanne.
Ouais, à Lausanne.
Mais
ensuite,
nous avons remarqué également autre chose. Hein. Les auditeurs de ce soir, je dis, sont d'accord avec nous. Et je sais que ça se passe non seulement ici à Kinshasa, mais aussi ailleurs au Congo. Ouais. Il y a beaucoup de médecins qui quittent aujourd'hui le pays pour émigrer vers l'Afrique du Sud. Ouais. Est-ce que vous avez pu joindre certains médecins là-bas?
Oui, nous avions appris que beaucoup de médecins congolais ont émigré vers l'Afrique du Sud. Alors, d'après nos sources, des médecins congolais, ces médecins brillent par leurs compétences dans la plupart des hôpitaux sud-africains. Ceux qui vont en Afrique du Sud se faire soigner, ils sont reçus par des médecins congolais qui évoluent là-bas. Alors, nous avons joint l'un d'entre eux, il s'agit du docteur Roger Panzou, que je vous invite à écouter.
Bon, c'est une émigration forcée, je dirais. Forcée, nous avons été forcés par les circonstances locales. Les Congolais, nous étions encore au pays, on a dû prendre une décision difficile, parce qu'on aurait bien voulu rester chez nous. Mais il faut prendre des choix, il faut choisir à un certain moment dans la vie, il faut prendre des choix. Nous avons choisi l'Afrique du Sud parce que nous, à ce moment-là, nous voyions nos études. Nous voulions continuer nos études universitaires. C'est comme ça que nous avons préféré venir ici. La situation économique, politique, sociale, l'insécurité, il y a un tas de raisons. Vous ne pouvez quand même pas passer votre vie à vivre d'illusions. C'est ça, en fait. À un moment donné, il faut prendre une décision dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup d'illusions, il y avait beaucoup d'illusions, du moins, dans notre cas.
On ne peut pas passer sa vie à vivre des illusions.
D'ailleurs, Nicole, pour compléter, il m'a dit au téléphone qu'il était médecin ici, il travaillait dans plusieurs formations médicales, et comme salaire de base, il ne recevait que 1 dollar.
Donc, comme salaire de
comme
base.
Salaire de base, oui.
L'équivalent plus ou moins de 480 francs.
Francs aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui. Ça, c'est pour un médecin, une personne qui a été formée pendant 6 ans, voire plus, hein.
Oui, voire plus.
Pour certains.
Ouais.
Et qui aujourd'hui a été obligé, pratiquement, obligé d'émigrer ailleurs parce que, bon, ces conditions-là, il ne pouvait pas les accepter. Et finalement, il a été obligé d'aller ailleurs où on lui offrait de meilleures conditions. Mais aujourd'hui, je dis, comment les étudiants réagissent par rapport à cette fuite de cerveau? Parce qu'ils sont, il faut le dire, abandonnés quand même à leur triste sort. Hein.
Nous avions tendu le micro à quelques étudiants de la faculté de polytechnique à l'université de Kinshasa. Écoutons leurs réactions.
Généralement, par exemple, dans notre faculté polytechnique, il y a un professeur par spécialité. Et que quand un professeur part, c'est toute la spécialité qui est presque abandonnée. Alors les autres s'arrangent à se partager sa charge horaire. Et généralement, ils ne sont pas spécialistes du domaine, donc ils n'assumeront pas cette charge autant que les titulaires eux-mêmes. Donc, ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de favoriser la formation des ingénieurs spécialement, parce que il le faut, parce qu'il n'y a pas de renouvellement sur le plan scientifique. Très souvent, il y a des bons éléments, des très bons éléments qui partent, et que quand ils partent, ils laissent des vides derrière eux.
On a connu deux départs. À part les fuites des cerveaux, on a connu deux cas de décès. Ça nous a sérieusement pénalisés. Le principal problème, c'est dans la gestion des cours. C'est que ceux qui restent, ceux qui se sacrifient de rester, ils ont plus de charges horaires pour les cours. Ils avaient initialement très peu de charges horaires avec les fuites, avec les départs des professeurs et les certains décès. ils sont plus chargés. C'est du fait qu'ils prennent plus de temps. On ne peut pas leur reprocher cela, même si ça pèse quelque peu sur nous.
Beaucoup de professeurs d'université sont partis parce qu'ils ont trouvé de meilleures conditions de vie ailleurs, à l'étranger. Peut-être que vous nous suivez à Lubumbashi ou encore à Kisangani, encore à Mbandaka ou ailleurs au Congo. Il y a aussi des universités là-bas. Il y a de bons éléments là-bas qui ont été obligés de partir pour trouver de meilleures conditions de vie ailleurs. Si vous souhaitez réagir dans cette émission, n'hésitez pas à appeler au 081 890 63 94. Je dis, on va évoluer sur ce dossier qui est quand même un dossier sérieux. Oui. J'imagine que le départ des professeurs d'université qualifiés pose un problème sérieux sur la qualité de l'enseignement. Et ça, c'est vraiment un problème que vous avez eu à relever?
Oui, c'est un problème un problème réel. Nous avions approché le recteur de l'université de Kinshasa pour savoir quelles sont les dispositions prises pour assurer la relève. Voici sa réponse.
Depuis 3 ans, nous animons des séminaires de recyclage, pour être plus exact, des assistants, des chefs de travaux en l'élaboration des projets de recherche. Dans nos stratégies de relance, de redynamisation de l'université de Kinshasa, la relève académique est la priorité. Donc tout ce que nous faisons tourne autour de la relève académique, c'est-à-dire on est en train de pousser, d'inciter les assistants et les chefs de travaux à faire avancer leurs travaux pour arriver à les défendre et à obtenir des thèses de doctorat. Donc c'est un travail d'incitation d'abord qu'on est en train de faire, d'incitation de ces assistants chez les travaux, mais également des professeurs qui doivent les encadrer. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait un assistant qui veut faire un tel doctorat, il faut encore qu'il y ait un professeur qui consacre le temps, qui accepte de l'encadrer, de le diriger, de le suivre. Ça, ça demande du temps. Et ce professeur doit être dans de bonnes conditions de travail et de vie. Vous voyez, donc. Alors, il y a beaucoup de projets de partenariat avec les universités belges. On a développé un système de bourse en sandwich, bourse en co-tutelle, etc. C'est-à-dire qu'un assistant qui est ici, il commence sa thèse ici, il va en Belgique, par exemple, pour quelques mois, il revient ici, etc. Ça, c'est pour éviter, justement, cette fuite de cerveau, parce que lorsqu'un assistant s'en allait, comme à l'époque, pour 7 ans, il perdait facilement la tâche avec le pays. En 7 ans, on a perdu le repère, on apprend du pays que tout ce qui est mauvais. Mais si on empêche à l'assistant d'aller pendant 7 ans, mais plutôt de faire seulement des brefs séjours, il perdrait difficilement attache avec son pays d'origine.
Mm-hmm. Ces arguments sont vraiment fondés, je dis cachement.
Tout à fait. Mm.
Donc, j'ai retenu une chose, il parle du travail d'incitation des chefs des travaux, des assistants. C'est vrai, on a observé que depuis quelque temps, il y a beaucoup d'assistants, de chefs
des
travaux.
Oui, dans nos universités, oui.
Et qui deviennent...
qui entreprennent des recherches.
Tout à fait. Il y en a même qui sont devenus des professeurs
des
aujourd'hui.
Des professeurs, oui, dans certaines universités de la place.
Voilà. Oui. Mais je dis, on apprend qu'il existe aussi une autre forme d'exode des cerveaux, cette fois-ci interne.
Oui, d'après nos sources, c'est le cas des professeurs cumulats qui sont obligés de recourir aux extramuros, comme ils l'appellent, pour arriver à arrondir le deux bouts de mois. Donc, au moment où on a par exemple besoin de lui à l'Unitine, par exemple, le professeur se retrouve au Bas-Congo, il va au Bandundu ou dans une autre université de la place où il reçoit quand même un traitement intéressant. Tout ça, il cumule tout ça pour arriver à gagner un peu plus d'argent et pour bien arrondir le bout du mois.
Donc, ils deviennent des cumulards, en fait.
Oui, c'est des cumulards. Ouais. C'est une forme aussi de fuite des cerveaux.
Oui, mais c'est une vie qui n'est pas facile, parce que vous imaginez, pour un enseignant, vous êtes pratiquement obligé de circuler ailleurs pour, compléter vos fins du mois. C'est pas facile.
Ouais.
Mais est-ce que cet exode rural, en fait, je dis exode rural, mais c'est plutôt l'exode des cerveaux, touche aussi nos universités dans les provinces?
Pour le cas de l'université de Kisangani, je vous propose cet entretien que notre consoeur Godly Vomondo a eu avec le secrétaire général académique de l'UNIKIS.
Professeur, on cesse de constater la fuite des cerveaux dans les universités ici au Congo ces derniers temps. Et parlons de l'université de Kisangani, combien de professeurs ou chefs des travaux sont partis ces deux dernières années?
Oh oui, je peux dire d'une manière assez large. Nous pouvons avoisiner une vingtaine de professeurs et chefs de travaux assistants qui sont partis de Kisangani, qui sont partis sous d'autres cieux. Il y en a qui sont partis en Europe sous prétexte d'aller préparer leur doctorat. Ils terminent, mais ils restent sur place. Nous en avons aussi qui sont partis à l'Est, qui sont partis à Goma ou à Bukavu pour travailler au centre universitaire, qui sont nos extensions. Mais là, on paye un peu mieux. Ah, ils préfèrent aller là-bas.
Qu'est-ce qui explique ces départs?
Bon, ceux qui sont partis, en principe, ils sont partis pour des conditions de vie assez difficiles. Et, à l'époque, le salaire n'était pas versé et la prime qu'on donnait était insuffisante. Alors les gens cherchaient là où ils pouvaient avoir de l'herbe verte en grande quantité.
Ces départs n'ont pas causé des préjudices à l'université?
Il y a beaucoup de préjudices que nous connaissons. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à terminer l'année académique dans les temps impartis, parce que nous n'avons pas d'enseignants sur place. Ceux qui étaient là sont partis. Alors nous devons recourir à une main étrangère, particulièrement les gens qui doivent venir de loin. Et quand ils doivent venir ici, il faut payer, et il faut payer tel qu'ils veulent. Et étant donné la précarité de nos moyens, on essaie de tenter par-ci, par-là. C'est comme ça que vous voyez que nous avons tendance toujours à prolonger l'année académique. Ça, c'est vraiment un effet néfaste de cet exode des professeurs vers d'autres cieux.
Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour éviter cet exode des professeurs?
Oui, je crois qu'il faut avoir une bonne politique sociale en ce qui concerne la stabilité du personnel. Ainsi, chacun peut travailler et gagner un salaire assez consistant qui lui permet de nouer les deux bouts du mois et qui lui donne assez qu'il puisse prendre ses enfants en charge pour la scolarité et pour les soins médicaux. Je crois que avec ces conditions-là, les gens peuvent être stables et on peut même arriver à attirer une main-d'œuvre d'ailleurs qui viendrait s'installer ici chez nous.
Vous partez souvent aussi à l'Est. Est-ce qu'on peut comparer les traitements de l'Est et d'ici?
Oui, il est un peu difficile de pouvoir comparer. Moi, quand je vais dans une université privée, l'université libre des pays des Grands Lacs, on nous paye à l'heure. Hein, ils payent mieux qu'ici. Ils paient pratiquement les doubles que nous donnons à nos visiteurs. Bien sûr, au détriment des gens qui sont aussi locaux, qui nous envient, qui pensent que nous sommes aussi mieux.
Vous avez quand même des amis qui sont partis. Peut-être que vous avez l'habitude de causer, de parler de ça.
Oui, il y a des amis qui sont déjà partis. Mais ceux qui préfèrent rester, par exemple, à Goma ou à Bukavu, parce qu'il y a beaucoup d'institutions, et dans ces institutions, ils peuvent bien travailler, et en travaillant, ils reçoivent de l'argent payé par heure. Alors là, c'est un peu plus consistant, et il y a moyen de faire, de préparer un avenir avec ça, et que d'avoir, attendre à la fin du mois, un salaire qui arrive après 2 mois, ou même 3 mois. Je crois que c'est là, et constitue une certaine démotivation.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci à Godlive pour cet entretien très riche. Ouais. Donc finalement, je dis que chemin on apprend qu'il y a de meilleures conditions de vie, je dirais plus ou moins acceptables pour un professeur à Goma ou encore à Bukavu. Ça, c'est à vérifier. Hein.
Oui, on vient de l'apprendre dans cet appréciation.
Donc j'invite tous ceux qui nous suivent à Goma, surtout vous, professeurs d'université, réagissez et parlez-nous un tout petit peu de ces conditions de vie qui sont meilleures à Goma et à Bukavu. Appelez au 081-890-63-94 à l'aide qui savait ça est là pour prendre vos préoccupations. Jeudi Kachama, on va terminer cet entretien. Finalement, je retiens une chose, c'est que le problème, c'est le problème du salaire. C'est ça qui est à la base aujourd'hui de l'émigration des professeurs d'université et
oui,
d'autres.
C'est ça le premier problème. Donc c'est la première raison, le salaire. Et en plus de cela, ça peut être certains sont partis en exil, et soit ça peut être d'autres sont partis pour valoriser leurs recherches, leurs travaux qui ne sont jamais exploités ici, valorisés ici. Alors ils se sont dit bon.
Finalement on reste.
Oui, on part ailleurs où nos travaux seront pris en considération.
Mm-hmm. Ouais. Donc continuez à réagir parce que tout à l'heure on va recevoir un invité qui est bien placé pour répondre à toutes vos préoccupations. Si vous nous suivez à l'extérieur du pays, n'hésitez pas à appeler au 081 890 63 94. N'hésitez pas non plus à nous écrire à l'adresse action@radiocapi.net. Je dis Kachama, je vous remercie sincèrement pour nous avoir donné toutes ces informations pour ce grand dossier que vous avez eu à nous faire sur la fuite des cerveaux ici en RDC.
Je vous en prie.
Dans 3 mois, de la repousser à Boulogne.
Nous abordons une question aujourd'hui qui vous intéresse et qui vous touche, j'en suis sûre, partout où vous nous suivez dans le pays et partout également où vous nous suivez en dehors du pays, à l'étranger. Vous savez qu'ils sont plusieurs à quitter le pays aujourd'hui pour aller travailler à l'étranger. On observe qu'il y a le départ des professeurs d'université, des médecins qualifiés qui ont choisi d'émigrer aux grandes dames des universités et instituts médicaux. Et ce phénomène, c'est la fuite ou l'exode des cerveaux. Alors, si vous voulez réagir, vous pouvez le faire et vous pouvez tout simplement nous appeler au 081 890 63 94. Déjà, beaucoup appellent, continuez à appeler hein, pour donner vos réactions parce que à présent, on va recevoir notre invité qui est le professeur Cécep. Il est secrétaire à la commission permanente des études. Il est avec moi dans ce studio. Bonjour, professeur.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, la première est celle de savoir pourquoi aujourd'hui on observe ce phénomène de la fuite ou encore de l'exode des cerveaux.
Merci, madame, de me donner l'occasion de traiter d'un problème extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Je dois d'abord préciser que la fuite des cerveaux, en fait, constitue un aspect particulier d'un problème général que l'on observe au niveau de notre population, c'est celui de, je dirais, de la quête d'un ailleurs meilleur qu'on ne trouve pas. Alors, j'ai suivi tout à l'heure les différentes raisons qui ont été données.
Oui, vous avez reconnu certains de vos confrères, hein?
Oui, oui, effectivement, j'ai reconnu presque tous ceux qui ont eu à aborder la question.
Et vous êtes d'accord avec eux?
Pour l'essentiel, oui. Pour l'essentiel. Il y a des raisons économiques. On l'a répété, c'est vrai. C'est vrai, ces raisons-là perdurent encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a des raisons politiques pour certains, hein, pour une minorité. Et puis, il y a le problème général, en fait, c'est ça, des conditions de travail. Il y a M. Kasongo de la Suisse qui a insisté sur cet aspect du problème. Mm-hmm. Effectivement, il y a des conditions de travail qu'on ne trouve pas ici, qu'on trouve ailleurs. Et puis je me dis, en fait, ces raisons-là sont suffisantes et ne le sont pas aussi en même temps. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a, en partant de ces différentes raisons, il faut essayer maintenant de voir comment résoudre le problème.
Et comment résoudre le problème au niveau de la commission permanente des études? Vous y avez pensé?
Bon, ce n'est pas tellement au niveau de la commission permanente des études. Disons, le problème concerne, préoccupe le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, principalement. Et à ce niveau-là, le ministère estime que, compte tenu de l'impact de ce phénomène sur notre système éducatif, et sur le fonctionnement même, la marche même du pays, qu'il faut essayer d'envisager l'avenir en notamment en encourageant, par exemple, la mobilité de tous ces gens qui sont sortis.
La mobilité de tous ces gens qui sont sortis.
Oui, de tous ces cerveaux qui sont ailleurs, qui peuvent revenir au pays, créer des conditions en fait pour qu'ils reviennent.
Vous pensez que c'est encore faisable?
C'est faisable. C'est-à-dire ils peuvent revenir, peut-être pas définitivement, mais en tout cas créer des possibilités de séjour au pays pour qu'ils puissent mettre leur intelligence au service du pays qui les a formés, qui les a envoyés.
Mais en attendant qu'ils reviennent, professeur,
oui.
C'est, je vous coupe un peu la parole.
Oui.
Pour ceux-là qui sont restés,
oui.
Jimmy Kabila, qui me suit depuis Kinshasa, réagit.
Oui.
Il dit, ceux qui sont partis n'ont pas tort.
Oui.
Comment voulez-vous vivre dans les galères qu'il y a ici, en étudier pour gagner sa vie et non pas pour rester, ne rien faire ou gaspiller son intelligence en gagnant rien du tout?
Je comprends, je suis parfaitement d'accord avec lui. J'ai dit au début que ce problème, le problème de la fuite de cerveau, c'était un aspect particulier d'un problème plus général.
Mm.
Il concerne, si vous voulez, si, au-delà de ça, nos sportifs s'en vont, nos jeunes s'en vont. Si vous demandez, vous interrogez dans la plupart des familles congolaises ou kinoises, je dis bien, presque dans toutes les familles,
oui.
Vous demandez aux enfants, posez la question aux enfants, qui veut aller en Europe, qui veut aller en Afrique du Sud, vous verrez, ce sera presque la quasi-totalité de nos enfants. Et ça, c'est très grave, je dis, pour un pays, pour l'avenir du pays.
Mm-hmm.
Hein? Tout le monde veut aller rechercher le bonheur ailleurs.
Alors, je crois qu'il y a une solution peut-être que vous allez proposer à nos auditeurs, parce qu'il y a Gaston Luboula,
oui.
Qui nous a appelé depuis Kisangani, qui dit, quel est le mécanisme que l'État applique pour éviter justement
oui.
Ces fuites massives? Ils ne vont pas seulement dans d'autres pays, mais aussi ils vont fréquenter d'autres universités ou encore instituts privés.
Oui, oui. J'ai dit d'abord, au départ, je crois qu'il y a un problème politique, un choix politique à faire.
Oui.
Le choix, c'est d'investir. C'est pas un simple slogan. On dit, il faut investir dans l'homme. Il faut investir dans les ressources humaines.
Mm-hmm.
Un pays qui n'investit pas, par exemple, dans son système éducatif, dans la santé, c'est un pays qui est voué, qui est condamné à la ruine, en fait, à la perte ou au sous-développement. Vous voyez? Donc, il faut un effort dans ce sens-là, mobiliser les ressources nécessaires pour que nous ayons une éducation.
Et comment on peut
et ensuite utiliser le produit de cette éducation. J'ai suivi la réaction de notre ami qui a appelé tout à l'heure là, qui pose en fait le problème du chômage, de la non-utilisation des personnes qui sont formées. C'est un problème réel aussi.
Mais comment on peut résoudre ce problème?
Mais il faut une politique d'emploi. Il faut une politique d'emploi. Nous formons des jeunes. Que font ces jeunes? Ils deviennent cambistes. Ils ouvrent des petites boutiques à travers la cité. Quand je dis petites, ce n'est pas pour minimiser. Mais ils n'ont pas été formés pour ça. Évidemment, nous disons aussi que nous les formons pour qu'ils créent des emplois. Il faut changer de perspective maintenant. Il faut mettre en place des mécanismes tels que, au lieu d'aller toujours demander du travail, qu'ils peuvent avoir des moyens de se les créer.
Mais
il faut toute une politique là-dessus, c'est-à-dire il faut revoir même le système même que nous avons en place pour former les jeunes. Il faut beaucoup de créativité, n'est-ce pas? Une politique dans la création des emplois, hein, dans ce sens-là.
Mais vous savez, professeur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec M. Kalala Ntumba qui nous écrit depuis Mbujima. Il dit, nous vivons dans un pays où le travailleur est abandonné à son triste sort.
Oui.
Prenons l'exemple d'un médecin.
Oui.
Qui touche par exemple 300 dollars ici. Ailleurs, je donne un exemple, il dit il arrive à 5 fois plus son salaire, donc il peut arriver jusqu'à 300 multiplié par 5, ça fait 1 500 dollars. En Afrique du Sud, par exemple, on observe aujourd'hui beaucoup de professeurs, beaucoup de médecins qui sont en Afrique du Sud. Comment voulez-vous que les gens restent ici pour travailler alors qu'ils gagnent 5 fois plus ailleurs?
Non, je vous comprends. Il dit, en fait, le problème du salaire, il est tout à fait réel. Ce qu'on paye ici, c'est quelque chose d'impensable.
C'est dérisoire.
Oui, c'est dérisoire. Il n'y a pas longtemps, un professeur ordinaire, par exemple, touchait 50 dollars. Hein? Bon, maintenant, un effort est en train d'être fourni. C'est encore insuffisant. Je crois que le gouvernement est disposé à continuer à fournir cet effort-là.
Vous avez
mais
proposé
il faut,
une solution.
Mais il faut poser,
oui.
Pardon, madame, je crois qu'il faut aller au-delà du salaire. C'est tout un problème de sécurité. de sécurité, c'est vrai que
justement,
c'est
vous avez
le
proposé une solution.
Un aspect, oui.
Oui. Vous avez parlé de la politique de l'emploi. Vous avez dit, par exemple, pourquoi aujourd'hui on observe, il y a des gens qui sont des universitaires qui sont cambistes, alors qu'ils peuvent s'organiser
oui.
et arriver à être responsables eux-mêmes.
Oui, sinon alors, le système fonctionne à perte. Parce que imaginez-vous tous ces jeunes diplômés qui sont dans la rue. Si on le mobilisait pour des actions à caractère social, à caractère économique, mais il y a de la place pour tout le monde dans ce pays. Et évidemment, là où ils sont, il faut leur donner le minimum pour qu'ils puissent travailler. Il faut leur garantir ce minimum-là. Il faut des conditions de logement. Pendant la colonisation, il y avait des jeunes qui travaillaient à la campagne. Il y avait des gîtes d'étape où les agronomes pouvaient rester. Si on recrée ce genre de travail, je crois que beaucoup de nos rues seront dépeuplées.
Qui doit recréer ce genre de travail?
Mais nous-mêmes. Enfin, quand je dis nous avons quand même des institutions qui sont en place, qui doivent prendre en main le sort de la population, qui ont comme mission de définir la politique de l'emploi, la politique sociale, la politique économique du pays.
Donc si je comprends un peu vos explications, professeur,
oui.
aujourd'hui,
oui.
Je donne un exemple. Un médecin qui a terminé, en fait, un jeune garçon, une jeune fille qui a terminé ses études en médecine
oui.
et qui devient médecin.
Oui.
Bon, il trouve un emploi. Je donne un exemple dans un hôpital de la place. Il gagne, toujours un exemple,
oui.
à supposer, 300 dollars ou même moins,
oui.
mais il n'est pas heureux. Alors, ce que vous lui conseillerez, c'est qu'il arrive à s'organiser lui-même et à créer.
Non, 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 je ne dis pas ça.
Oui.
Je dis si. Nous essayons de chercher des solutions. Pour l'avenir. En partant de ce que nous vivons maintenant, au niveau par exemple du système éducatif, nous disons il faut maintenant un autre type d'éducation. Nous constatons que le marché de l'emploi est quasiment nul dans d'autres pays pour le moment. Faut-il continuer à former des gens pour un emploi hypothétique? Il y a combien d'industries dans la ville ici, combien d'entreprises qui peuvent engager des diplômés universitaires que vous êtes, ou que nous sommes, tous ceux qui sont sur le monde. Elles sont à compter. Quelques entreprises brassicoles, peut-être. Celles qui vendent du tabac, ou je ne sais pas quoi.
Les entreprises de communication.
Et de communication, oui, qui sont en train de fleurir,
oui.
de prospérer. Et puis, c'est tout. Vous voyez? Donc, ce marché-là, il faut le créer. Il faut le créer.
Mais qui va le créer?
Je dis ceci, dans la politique maintenant, nous disons que dans notre politique de l'éducation, du moins c'est le domaine où je suis un peu à l'aise, nous devons mettre en place des programmes de formation qui incitent les jeunes à créer, à prendre l'initiative pour se donner du travail.
Donc finalement, les jeunes aujourd'hui ne devraient plus normalement passer tout leur temps à l'université.
Non, pourquoi passer tout leur temps à l'université? D'abord, notre système même de formation, il était long pour, j'allais dire, inutilement.
6 ans à l'université?
6 ans à l'université, et de sorte que quand un jeune termine, il a en moyenne 30 ans. Vous voyez? 30 ans, et puis compte tenu de l'espérance de vie dans notre pays, on dit que c'est moins de 50 ans, je ne sais pas si c'est 49 ans ou je sais combien, d'après les derniers chiffres. Là.
On devrait donc mettre en place finalement.
Finalement, vous avez les jeunes, en fait, va servir la famille ou le pays pendant 15 ans.
Oui.
15 ans en moyenne. Donc, vous voyez, on investit dans une personne.
L'idéal serait de former ce jeune-là
oui.
à un métier.
Oui, et c'est pour ça que nous insistons aussi sur l'aspect professionnalisation, sur l'aspect créativité. Nous avons introduit même dans nos programmes d'études des enseignements en rapport avec la créativité, hein, avec des projets. Donc des aspects vraiment pratiques là, qui peuvent amener quelqu'un à pouvoir mettre en pratique la formation qu'il reçoit. Mais je dis, on ne crée pas, on ne se réveille pas un matin et puis on se dit, moi je crée ma petite entreprise. Non. Il faut quand même des conditions pour ça. Il
Est-ce
faut
que
un cadre
ces conditions
légal.
Sont idéales?
Je dis, il faut un cadre légal, il faut des systèmes, par exemple, de financement, n'est-ce pas? Des microcrédits, ainsi de suite. Donc, C'est toute une politique à promouvoir.
Mm-hmm. Oui. C'est long ça. Et à votre niveau, vous êtes quand même le secrétaire à la commission permanente des études.
Oui.
À votre niveau, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire pour tant soit peu peut-être soutenir le ministère de l'enseignement supérieur?
Ce que nous faisons, nous avons comme tâche de réfléchir, de sur le plan académique, n'est-ce pas, de proposer au ministère tout ce qu'il y a comme initiative.
Et qu'est-ce que vous avez proposé jusque-là?
Par exemple, je vous ai parlé ici du problème de la mobilité. Permettre à ceux qui sont à l'extérieur, qui sont sortis du pays, de venir pour venir prester leurs services ici, se mettre au service de nos universités.
Mm.
Vous avez abordé le problème des extramuros, n'est-ce pas? Disons que pour mettre fin à cette question, ou pour atténuer ça, il faut le problème de la relève. Le recteur Lututala a soulevé ce problème-là. La relève en mettant en place une politique, par exemple, de bourse de courte durée à l'étranger. Nous avons constaté, quand vous envoyez des gens...
Ils restent pour de bon, ils ne reviennent plus.
Alors maintenant, nous allons promouvoir des bourses de courte durée. Vous allez pour 3 mois, vous faites vos lectures là-bas.
Et vous revenez.
Vous revenez ici.
Ça a déjà démarré, je crois.
Oui, ça a déjà démarré. Et il y a aussi le problème de la formation locale. Il faut revoir le programme de 2IA, les diplômes d'études approfondies. Le ministère procède à la réforme de nos anciens programmes pour un nouveau programme plus souple, plus adapté, qui puisse permettre à quelqu'un, en l'espace de 5 ans maximum, de pouvoir soutenir une thèse.
Oui, on a remarqué que dans la plupart des universités aujourd'hui même, dans les instituts supérieurs, par exemple à l'IFASIC, aujourd'hui il y a beaucoup de professeurs, en fait il y a beaucoup de chefs de travaux qui ont monté et qui sont devenus professeurs d'université aujourd'hui.
Oui.
Donc on le fait également maintenant sur place ici.
Et même ça, si vous creusez bien la situation, vous vous rendrez compte que la plupart, que beaucoup de chefs de travaux ont l'âge de professeurs ordinaires.
Et l'âge des professeurs ordinaires, c'est quel âge à peu près?
Bon, au minimum, disons en moyenne 55 ans, c'est ce qu'on dit. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas pu, beaucoup, c'est des personnes en fait qui n'avaient pas bénéficié des mêmes conditions de travail que ceux qui sont professeurs.
Mm.
Alors, là aussi, c'est un problème.
Il faut les aider, mais il y a quand même un problème qu'il ne faut pas rejeter, c'est le problème de salaire. Vous savez, Mathias Lumbu qui nous appelle depuis Kananga dit, c'est irresponsable de la part du gouvernement. Les professeurs ne sont pas bien rémunérés. Comment peuvent-ils rester s'ils ne gagnent pas grand-chose par rapport à ce qu'ils enseignent? Ça n'a pas de sens.
C'est pour ça que j'ai dit, c'est le problème des conditions de vie, des conditions de travail. Le salaire est un aspect. Il ne faut pas tout ramener au salaire. C'est tout un ensemble.
Il faut pas tout ramener au salaire, mais c'est la base, c'est l'essentiel.
C'est la base. Quand je dis conditions de vie, conditions de travail, c'est qu'au-delà des salaires, qu'il faut évidemment, il faut un salaire tout à fait normal aux gens qui travaillent, aux gens de ce niveau-là.
Mais vous êtes peut-être d'accord avec Edouard Binama qui dit que, depuis Kananga, que la situation politique aussi est en grande partie à la base des fuites de cerveau. Le pays est concerné par ce problème.
Bien entendu, je crois que tout cela va de pair. Quand le politique ne marche pas comme il faut, le social ne va pas marcher.
Mmh.
Et une politique qui ne met pas l'accent sur le social, on peut se demander en fait pourquoi cette politique-là existe. Puisque le social, en fait, devait être au centre de la politique, je veux dire.
Vous pensez qu'un jour ici, Congo, professeur Sassep, un professeur comme vous peut gagner, je dirais, au-delà de 3 000 $ américains?
Mais est-ce que c'est quelque chose d'important? Parce que dans les pays frontaliers, nous avons des collègues qui enseignent ici, qui vont même ailleurs, en Afrique ici seulement, autour de nous, ils ont cela. Est-ce que le Congo est incapable de donner ces 3 000 $-là à un professeur? Ou c'est cette question seulement, en fait, je crois, de mettre peut-être d'utiliser rationnellement le peu de ressources.
Tout à l'heure, vous avez suivi, il y a un professeur, en fait, il y a un collègue qui a fait un entretien avec un professeur à Kisangani, qui a reconnu que à Goma, à Bukavu, les conditions de vie salariales pour un professeur sont meilleures.
Oui.
Vous êtes au courant de cela?
Oui, je suis au courant. C'est-à-dire que même ici, vous avez des établissements privés, d'enseignement privé, et qui offrent de meilleures conditions aux professeurs. Mais dans le passé, ces établissements étaient en difficulté par rapport aux établissements publics. C'est-à-dire qu'ils offraient moins, mais aujourd'hui, ils offrent plus. Tu vois qu'il y a là un effort à fournir pour stabiliser les gens. Courir d'une université à une autre, ce n'est pas une solution.
Mais le cumulard.
Non, ce n'est pas une solution. C'est une illusion que l'on se fait. et on sort de là esquinté toute la journée. On ne fait que travailler. C'est comme les médecins qui vont de polyclinique en polyclinique. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils deviennent? Vous voyez? Donc, c'est un problème qui est tout à fait...
Conclusion?
Moi, j'estime que il faut, comme on dit, investir dans l'éducation, investir dans la santé, investir donc dans ce qui peut accroître la dignité de l'homme. Je dis de l'homme congolais de façon générale.
Est-ce que vous-même, professeur, vous risquez de partir d'ici là?
Si je l'avais voulu, je serais parti. Mais j'étais à l'étranger, je suis revenu. Il y a des amis qui sont restés là. Moi, j'ai estimé que je devais venir travailler ici. Je me bats ici. Je me dis que il faut lutter.
Il faut lutter. Hein.
Il faut lutter.
Et si les conditions arrivent à être meilleures, certainement qu'il n'y aura plus de problèmes de fuite de
cerveau. Nous devons travailler, oui, pour que les conditions s'améliorent et pour que la fuite de cerveau, qui est préjudiciable même au marché des connaissances dans notre pays, n'est-ce pas, ne puisse pas hypothéquer l'avenir de notre jeunesse et l'avenir du pays en général.
Professeur Cessette, je vous remercie sincèrement d'avoir répondu à toutes mes questions. On reparlera certainement prochainement sur cette question de la fuite des cerveaux ici en RDC. Pour l'instant, on s'arrête là. En tout cas, merci. Hein,
merci
et à la
madame,
prochaine.
Merci pour votre invitation.
J'ai juste le temps de remercier tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous ont appelés au 081 890 63 94. Je remercie également Sylvain Baogoré et Jody Kachama qui étaient la mise en onde. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.